Kiosque Magazine.
8 janvier 2015, oui, alors je m'en voudrais de commencer sans vous souhaiter à tous d'abord une bonne et heureuse année. Au micro pour vous parler d'économie et d'emploi pendant la prochaine heure, moi-même, François Prater et Éric de Belval. Mais auparavant, on peut difficilement passer sous silence l'hécatombe d'hier, cette horrible chose qui est survenue à Paris.
Oui, François, et je voudrais rendre un petit hommage à Bernard Maris qui s'est fait tuer hier dans les locaux de Charlie Hebdo. Bernard Maris était un économiste assez iconoclaste, un garçon qui avait écrit un livre très très drôle où il traitait les économistes de médecins de Molière. Et il était lui-même assez brillant pour supporter ce genre de critique et il va beaucoup nous manquer. Et pour clore sur ce triste dossier, je rappellerai un mot qui figurait dans un des derniers éditoriaux du journal. C'est pas la peine de fermer des mosquées, il faudrait surtout ouvrir des hôpitaux psychiatriques.
Oui, ceci dit, et pour revenir à nos moutons plus prosaïques, plus locaux aussi, de quoi allons-nous parler cette semaine?
Alors, on va commencer par l'économie québécoise en 2015. Alors, on connaît la litanie de certains mécontents. Vous savez, ceux qui s'expriment à travers des formules comme « Ah, c'était mieux avant !» Alors, formule qui sera peut-être difficile à utiliser à propos de 2014, puisque c'était pour le Québec une année marquée par les compressions de toutes sortes et un marché de l'emploi déprimé. Qu'en est-il des prévisions en ce début d'année? Sont-elles optimistes par effet de stimulation ou dans la continuité de 2014, on le verra. Alors ensuite, on va aller jusqu'en Russie. Pourquoi ? Parce que les entreprises canadiennes souffrent pour leurs exportations. Il y a à peine un an, le marché russe semblait représenter pour les exportateurs canadiens un territoire riche de perspectives, notamment dans le domaine des équipements agricoles ou de la viande. Et une des réponses de la Russie aux sanctions économiques qui se sont abattues sur elle suite à la crise ukrainienne a été l'interdiction d'entrer sur son marché de toute une série de produits en provenance du Canada. Alors encore une occasion de constater qu'à la fragilité des prévisions peut s'ajouter celle des circonstances. Et puis pour terminer en ce qui me concerne, eh bien je vous parlerai de l'entrepreneur comme homme éclairé. Enfin c'est plutôt un journaliste qui en parlera, qui s'est intéressé à Fabrice Grinda. Je ne sais pas si le nom vaut quelque chose. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette place que les entrepreneurs ravissent petit à petit aux politiques ou aux philosophes dans notre société moderne, ce qui est probablement une très bonne chose pour les premiers, peut-être une moins bonne pour les seconds. Pourtant, nous verrons que cet homme éclairé, futile entrepreneur, nous recommande pour qu'une réussite ait vraiment un sens d'en donner un à sa vie qui ne passe ni par le pouvoir, ni par l'argent.
Et pour ma part, on le sait, le Canada a mis tous ses œufs dans le même baril, le pétrole s'effondre, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur l'économie canadienne? Et vous allez voir que pour le Québec notamment, ça risque d'être très bon. Il y a les collègues que vous pouvez avoir au bureau, vous savez, le militant, la personne qui vous parle du droit des animaux ou encore de l'importance de ne pas manger des OGM ou encore qui reçoit Dieu sur le câble et qui veut absolument vous en convaincre. Alors, militer au bureau, est-ce que ça se fait? Et si oui, comment? De quelle manière? Qu'est-ce qui est toléré? On pourra revenir là-dessus. Finalement, je vous emmène loin, loin d'ici, parce que quand on se compare, on se console, et je vous parle de l'économie en Afghanistan. Et tout ça, ça commence dans quelques instants. Je voyais que Francis Veil de La Presse, dans une de ses chroniques récentes, nous disait que Carlos Leitao, le ministre des Finances du Québec, nous prépare peut-être un Paul Martin, j'entends par là, peindre la situation économique pire qu'elle est pour avoir l'air d'être un très bon gestionnaire en déclarant un surplus éventuel. Tout ça au prix de beaucoup d'austérité, de coupures. Alors, qu'en est-il?
Ah, les économistes, ces prédicateurs imprudents. Oh, vous diriez la même chose peut-être des hommes politiques, François. Ouais, c'est ce que je comprends.
Je paraphraserai en disant que l'économie est quelque chose de trop sérieux pour être laissé aux mains des économistes.
Oui, vous avez probablement raison. Et ces politiques comme ces économistes, on les surprend toujours à se contredire entre eux ou à se tromper sur la nature des changements ou sur les chiffres qui mesurent l'économie. Alors, voyons voir si cette tendance est toujours d'actualité en ce début d'année. Ça a intéressé Julien Arsenault dans le Devoir. La morosité a continué de planer au-dessus de l'économie québécoise en 2014, une année caractérisée entre autres par des compressions tous azimuts, un marché de l'emploi déprimé et une croissance économique n'ayant pas répondu aux attentes. L'effet libéral, promis en campagne électorale, tarde à se matérialiser en ce qui a trait à l'emploi, puisque la création de postes devrait être quasi nulle pour l'année, alors que dans son budget déposé en juin, le ministre des Finances, Carlos Leitao, en prévoyait l'ajout de 31 300. De plus, dans sa mise à jour économique automnale, le grand argentier du Québec a entre autres abaissé sa prévision de croissance du produit intérieur brut de 1,8 à 1,6%. Je ne sais pas si c'est le mécanisme que vous évoquiez, mais enfin bon, peut-être. Il y a pourtant eu des signes évidents de reprise robuste aux États-Unis. Hein. Je vous rappelle la croissance du PIB à 2,3%. Ce qui a généré une demande pour nos exportations, c'est l'économiste en chef du mouvement Desjardins, François Dupuis, qui l'a observé. De plus, la création d'emplois a été assez bonne dans le reste du Canada. Ah oui, il y a toujours le reste du Canada pour nous faire la leçon, hein, ne l'oublions pas. D'après lui, la croissance de l'économie du Québec des 12 derniers mois devrait plutôt s'établir à 1,5%. Et il ajoute que la plupart des prévisionnistes ont tendance à aller vers ces niveaux-là. Pour l'économiste en chef adjoint de la Banque Laurentienne, Sébastien Lavoie, 2014 aura été une année de stagnation en ce qui a trait au marché de l'emploi qui a été sous la norme par rapport au reste du pays. Encore le reste du pays. S'il demeure prudent, messieurs Dupuis et Lavoie se montrent toutefois plus optimistes pour 2015 puisque le raffermissement des exportations combiné à la chute des prix du brut et le recul du dollar canadien devrait stimuler l'activité. Bon, on se mouille pas beaucoup en disant ça, c'est assez évident. Après une progression de 3%, les exportations québécoises devraient grimper de 5% au cours de l'année, ce qui, selon monsieur Dupuis, aidera à générer entre 25 000 et 35 000 emplois. Nous referons le comptage, évidemment, le moment venu. Les investissements devraient être de retour, affirme l'économiste en chef de Desjardins. Les entreprises devraient être en meilleure posture pour investir et créer de l'emploi. Cette fourchette correspond par ailleurs à celle du ministre des Finances qui, dans sa mise à jour automnale, prévoit l'ajout de 31 800 postes au cours de 2015, ce qui représente toutefois un recul par rapport à 46 300 emplois dans son budget de juin. Hein, toujours intéressant de mesurer les leçons de l'histoire.
Ah, il faut se rappeler que le nouveau gouvernement nous a promis 250 000 emplois durant son mandat.
Absolument.
Et que ce n'est pas une cible, c'est un engagement.
Ah, ben, c'est une promesse électorale, hein, effectivement, vous avez raison de la rappeler, mais qui semble de plus en plus ambitieuse au point où M. Leitao a tempéré cet engagement en le qualifiant, vous venez de le rappeler, de cible, hein, une promesse qui devient une cible. Hein, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et puis, correction après du Premier ministre, M. Couillard. Monsieur Lavoie table également sur une croissance des exportations qui devrait cependant osciller autour de 4%, ce qui représente quand même la plus forte augmentation au Québec depuis la crise financière de 2008. Alors, moi je veux bien, mais il faudra tempérer aussi avec la Russie, on va en parler tout à l'heure. L'élan est quasi unique aux États-Unis où vont 70% de nos exportations. Ce vent du Sud est tellement favorable. Le Québec en bénéficie avec des exportations qui ont augmenté en 2014 dans presque tous les sous-secteurs. Les deux économistes estiment également que le redressement amorcé par l'Ontario aura des effets positifs sur les exportations québécoises au cours des 12 prochains mois. C'est la carte cachée, affirme M. Lavoie. L'Ontario, c'est notre deuxième partenaire commercial. L'économiste en chef adjoint de la Banque Laurentienne prévoit une croissance québécoise du PIB de 1,9 en 2015, la même cible que le ministre des Finances, une donnée qui lui semble réaliste. Et je vous rappelle toujours qu'on estime que c'est à partir de 1,5% de points de croissance que l'emploi démarre, enfin que l'emploi augmente. La dernière fois que l'économie du Québec a connu une croissance au-delà de 2%, c'était en 2004, souligne M. Lavoie. La devise canadienne était plus faible, les États-Unis allaient très bien et les gouvernements étaient en situation d'équilibre budgétaire. Son collègue du mouvement Desjardins s'est toutefois montré un peu moins enthousiaste sur la cible du ministre Leitao en penchant sur une croissance de 1,7 en 2015 et de 1,5 l'année suivante. Ça semble un peu élevé, dit M. Dupuis. Je pense qu'il faudrait une donnée légèrement supérieure à 1,5, près de 2. C'est un peu optimiste. Il faudra évaluer l'effet des coupes par le gouvernement Couillard. Sans se lancer dans l'analyse politique, les deux économistes, qui ne remettent pas en doute l'assainissement des finances publiques, s'entendent pour dire que l'ampleur des compressions décrétées par Québec pourrait fausser plusieurs prévisions. On retire quand même près de 4 milliards dans l'économie en 2015, rappelle M. Dupuis, ça pourrait jouer sur la croissance. De plus, le fardeau fiscal des contribuables s'alourdira encore un peu plus en 2015-2016, puisque la mise à jour économique du ministre Leitao prévoit que Québec pigera 262 millions supplémentaires dans leur poche. C'est mignon ce mot pigera, j'avoue, je ne le connaissais pas. Mais bon, je crois que je comprends sa signification, je pourrais le réemployer. La réaction, c'est toujours une boîte à surprises, estime M. Lavoie. Une ponction peut amener les gens à être un peu moins confiants, et cela pourrait se traduire par une stratégie d'attente qui pourrait influencer l'activité économique. L'économiste en chef adjoint de la Banque Laurentienne estime toutefois que la dégringolade du prix du baril de pétrole sous la barre des 60 $ procurera un peu de répit aux contribuables puisqu'elle représente un allègement de l'ordre de 1 milliard. Enfin, c'est quand même fort d'appeler ça un allègement fiscal. Il s'agit juste de votre porte-monnaie qui sera un tout petit peu plus rempli au moment où vous allez à la pompe. Hein.
C'est pas... Il reste que, et le chiffre est sidérant, pour une famille de la classe moyenne, deux adultes, deux enfants, l'an prochain, ben, c'est 1 300 $ de moins dans leur poche pour un gouvernement qui n'a pas augmenté leurs impôts. Ouais. Officiellement, mais tout le reste a augmenté. Donc.
Excellent rappel à l'ordre. Selon M. Lavoie, ce recul aidera à contrebalancer le nouvel effort demandé aux ménages par le gouvernement Couillard le 2 décembre dernier. Bon, voilà, la photo, elle est ce qu'elle est. Moi, je trouve qu'il y a quand même du fond dans cette présentation. On a des repères. Et en tout cas, on a de bons repères pour aller faire des vérifications dans 3, 6 et 9 mois.
Oui, dans 3, 6 et 9 mois, nous aurons des économistes qui nous expliqueront pourquoi ça ne s'est pas passé comme ils l'avaient prévu. Je reste un peu dans la même veine pour vous parler de l'économie canadienne où les paradigmes de base sont en train de se renverser, à savoir le prix du pétrole descend, donc la richissime Alberta va cesser de traîner le train canadien et peut-être, oui, peut-être, que les secteurs industriels albertains et, pas albertains, mais ontariens et québécois vont pouvoir en profiter. Un texte de Carl Retino Paradzelli, paru dans Le Devoir du 7 janvier, « Le mal hollandais inversé ». Le pétrole redessine le paysage canadien. Les effets du mal hollandais qui a longtemps affligé le secteur manufacturier du Québec et de l'Ontario s'inversent. Les deux provinces profitent aujourd'hui de la chute des prix du pétrole et de la baisse du dollar canadien pendant que l'Alberta frémit. C'est le retour du balancier, mais pour combien de temps? Des vents favorables soufflent actuellement sur le Québec et l'Ontario, affirme le professeur de sciences économiques à l'Université d'Ottawa, Serge Coulombe. Au contraire, les provinces productrices de pétrole, l'Alberta et Terre-Neuve, sont recouvertes de sombres nuages. Selon lui, l'effet combiné de la dégringolade des cours pétroliers, de la dépréciation de la devise canadienne et du raffermissement de la demande américaine donne un second souffle aux manufacturiers exportateurs québécois et ontariens. C'est en quelque sorte l'inversion du mal hollandais. Une expression qui désigne la hausse d'une devise causée par l'exploitation de ressources naturelles, ce qui désavantage d'autres secteurs de l'économie. Dans le cas canadien, l'exploitation massive des sables bitumineux dans l'Ouest canadien a asséné un dur coup aux provinces manufacturières, principalement le Québec et l'Ontario. Oui, il y a un effet inverse, explique M. Coulombe, mais on ne pourra pas récupérer instantanément l'ensemble des pertes d'emplois subies dans le secteur manufacturier. Ça va prendre beaucoup de temps. Dans le sixième chapitre de l'ouvrage « Le Québec économique 2013-2014 » paru cet été, le professeur conclut que le Québec a perdu un total de 103 000 emplois manufacturiers entre 2002 et 2008 et que le mal hollandais est directement responsable d'environ le tiers de ces pertes, 31 900 emplois. Et évidemment, ce sont les emplois qui se sont perdus directement. Chaque fois qu'on perd un emploi, ben, il y a un emploi dans les services qui a moins de clients et ainsi de suite, donc il y a des pertes collatérales. Les ajustements économiques ne se font jamais du jour au lendemain, ajoute-t-il. Plusieurs manufacturiers et exportateurs du Québec constatent maintenant qu'ils ont des possibilités nouvelles pour exporter ou augmenter leurs exportations aux États-Unis. Mais ça prend du temps avant de créer des réseaux, ajouter des lignes de production. M. Coulombe précise que cette période de transition peut varier de 2 à 5 ans selon le cas. C'est moins vrai que ce ne l'était, répond le président de Manufacturiers et Exportateurs du Québec, Éric Tétrault. Son association a revu à la hausse ses prévisions pour 2015 pour tenir compte de la glissade des cours pétroliers et prévoit que les exportations québécoises vers les États-Unis vont augmenter de 15 % au cours des 12 prochains mois. Ça me semble très optimiste comme prévision, mais si ça se réalise, tant mieux. Et il constate, lui aussi, que le mal hollandais s'inverse au bénéfice des entreprises et des consommateurs québécois. M. Tétrault se demande toutefois combien de temps durera cette conjoncture favorable. À moyen et long terme, il y a des désavantages sous l'angle canadien. En ce qui concerne la péréquation, si l'Alberta a moins de capacité fiscale, il faudra que le Québec soit beaucoup plus performant ou qu'une autre province verse davantage d'argent. Nous sommes obligés de l'envisager, dit-il. Nous sommes dans l'attentisme. Pour l'instant, nous profitons de l'éclaircie. Dans un rapport dévoilé lundi, la Banque royale du Canada a quant à elle démontré que la hausse des exportations et des dépenses de consommation provoquées par la baisse des prix du pétrole pourra largement compenser la chute des investissements dans le secteur pétrolier. À court terme, le Québec et l'Ontario ne ressentiront peut-être plus les effets du mal hollandais, mais le syndrome n'a pas disparu de la scène canadienne pour autant, précise Serge Coulombe de l'Université d'Ottawa. Depuis plusieurs années, l'économie du Canada est centrée sur l'exploitation des ressources naturelles et encore aujourd'hui, le dollar canadien demeure une pétromonnaie, juge-t-il. Lorsque l'économie canadienne est devenue de plus en plus dépendante de l'exploitation pétrolière, cela a entraîné une perte à long terme des emplois manufacturiers, précise le professeur. Si le dollar canadien demeure à 85 sous américains pendant 5 ans, on va observer un renouveau des exportations québécoises qui pourrait être relativement spectaculaire, d'autant plus que la conjoncture américaine est très bonne, affirme-t-il en revanche. Le Québec n'aura par ailleurs rien à envier à sa voisine ontarienne plus populeuse, puisque les économies des deux provinces suivent des trajectoires semblables, note M. Coulombe. Le Québec va proportionnellement profiter des mêmes avantages. Ah, le beau rêve où finalement le pétrole cesserait de tuer notre économie. Allez, je reste là-dessus, je peux pas, je retourne sur mon nuage. Courage, chanté par Amélie. Je me disais comme ça que si on fait déjà des appels au courage le 8 janvier, l'année risque d'être longue. Ça va aller mal. Enfin, non, soyons optimistes. Optimiste, oui, mais quid de nos exportations en Russie? Vous me direz quel est le lien? Eh bien, si vous êtes un exportateur canadien, ben, la Russie, c'est un peu le Titanic de l'année.
Et notamment si vous exportez des machines agricoles ou du porc, et le courage, ben, il va leur en falloir à nos exportateurs canadiens. Alors, on connaît hein, le risque que prennent les entreprises qui destinent la majorité de leurs ventes à un seul client. Hein. Encore, sur son territoire national, on peut raisonnablement s'accommoder des règles de la concurrence. Mais quand un marché à l'export se ferme brutalement, comment faire face? Il y a peu de moyens. Ça a intéressé Andy Blatchford dans la presse. Et ça concerne évidemment les souffrances des entreprises canadiennes face aux exportations en Russie. Confrontés à la crise du rouble en Russie et aux représailles du pays contre l'Occident, les exportateurs canadiens se demandent à quoi pourra bien ressembler 2015 pour ce marché qui était encore plein de promesses il y a moins de 12 mois. Plusieurs entreprises, des fabricants d'équipements agricoles aux producteurs de porc, ont passé la plus grande partie de 2014 à s'ajuster à l'instabilité économique en Russie, un pays qui a acheté pour 563 millions de dollars d'exportations agricoles du Canada en 2012. Donc, ce n'est pas une petite affaire. Pour certaines de ces firmes, la première moitié de 2014 avait des allures d'année record. Et puis les ventes se sont évaporées. Un dirigeant d'un des plus grands exportateurs canadiens en Russie a noté que sa société réalisait des ventes annuelles d'environ 250 millions de dollars ces dernières années, essentiellement en produits de porc congelés. Olimel, un producteur et distributeur de viande de porc et de volaille, était en voie de connaître sa meilleure année en vie en Russie après plus de 2 décennies sur ce marché, a observé Richard Davis, vice-président principal aux ventes et au marketing de l'entreprise. Mais en août, la Russie a interdit l'accès à son marché pour les produits de viande et d'autres biens en provenance de certains pays, notamment du Canada, en représailles pour les sanctions financières imposées par les pays occidentaux. Alors je cite M. Davis, « Nous savions que l'interdiction était imminente, potentiellement, mais nous ne nous attendions certainement pas à ce qu'elle survienne aussi rapidement et à ce qu'elle soit aussi forte qu'elle ne l'a été. De toute évidence, l'embargo en août a eu un impact significatif pour nous et en général pour le marché du porc canadien et nord-américain en fait. En mars, le Canada et certains de ses alliés ont voulu punir la Russie pour son opération en Crimée et son recours à la provocation militaire dans l'est de l'Ukraine. Ils ont imposé un certain nombre de sanctions contre la Russie et ceux qui l'appuyaient. La Russie a répliqué avec une interdiction sur la viande, les fruits de mer, le lait et les produits laitiers, les fruits et les légumes en provenance du Canada, des États-Unis, de l'Union européenne et d'autres pays. Dans une certaine mesure, l'impact de l'interdiction commence déjà à être visible dans les données commerciales. J'en bafouille, mais je fais un petit commentaire au milieu de cette lecture. On joue complètement à l'envers avec la Russie. Il faut absolument trouver le moyen d'intégrer la Russie à l'Europe. La vraie porte de sortie, c'est de faire des Russes des partenaires et pas des concurrents. Et tant qu'on s'amusera à jouer comme ça, avec des interdictions, on obtiendra des réactions violentes. Et tout ça mène à rien du tout. Enfin, c'est dramatique de constater à quel point les politiques ont une vision courte et absurde des choses. Cette histoire me remue les tripes. Les plus récents chiffres de Statistique Canada font état d'exportations de produits du porc frais, refroidis ou congelés vers la Russie, totalisant 7 millions de dollars pour les mois d'août, septembre et octobre 2014. En comparaison, la valeur de ces exportations pendant la même période de 3 mois en 2013 avait atteint 64 millions de dollars. Par ailleurs, Statistique Canada ne rapporte aucune exportation canadienne de crustacés vers la Russie dans les mois d'août à octobre 2014. Un an plus tôt, des ventes de 16,1 millions de dollars avaient été enregistrées à cette rubrique. On imagine ce que ça fait, notamment pour des petites entreprises qui travaillent dans ces domaines. Et on rejoint cette idée que, quand vous avez un marché qui croît très vite, ça devient un client quasi unique. Et quand il s'en va, vous vous fermez la porte. Les ventes canadiennes de poissons congelés se sont établies à 750 000 dollars d'août à octobre 2014, en baisse de près de 19 millions de dollars par rapport à la même période. Et là aussi, le chiffre peut paraître petit parce que 750 000 dollars, on va dire, c'est pas l'économie canadienne, etc. Mais justement, ça montre bien qu'il s'agit de petites entreprises qui jouent avec des chiffres d'affaires relativement modestes et qui sont donc dans une zone de fragilité beaucoup plus grande.
Et généralement, dans ce genre de développement d'exportation, c'est toujours 1, 2, 3, voire 4 entreprises ciblées qui perdent des ventes et qui sont fragilisées par ces pertes-là.
Exactement. Selon M. Davis, les producteurs de porc ont redirigé certains de leurs produits vers d'autres marchés, mais cela a fait reculer les prix. Donc vous voyez les effets pervers du truc, comme ce que vous signalez tout à l'heure, quand un emploi industriel s'arrête, eh bien, il y a l'emploi de service qui est menacé, et puis c'est un jeu de dominos qui ne s'arrête pas. Malgré tout, les pertes de 2014 ont été partiellement contrebalancées par des hausses de prix attribuables à une épidémie virale qui a tué des millions d'animaux aux États-Unis. Mais enfin, s'il faut retrouver son bonheur parce que le malheur des autres s'accentue, ça va être difficile de gérer l'économie. Bien qu'il ne sache pas ce qui attend le commerce entre la Russie et le Canada, M. Davis craint que les déclarations d'Ottawa à l'endroit de la Russie ne nuisent aux relations entre les deux pays, même si les sanctions devraient être levées. Et il a bien raison, de même que les Européens jouent avec le feu en faisant les gros bras vis-à-vis de la Russie. Je pense qu'on n'a rien à gagner à les critiquer publiquement et à les menacer comme on le fait plutôt que de rechercher des terrains d'entente. Bref. Mon opinion personnelle, c'est toujours M. Davis qui parle, est que la situation est trop bruyante, qu'il y a trop de rhétorique pour le poids politique que nous avons dans le grand édifice du monde politique. Je vous jure, je ne l'avais pas lu avant de faire le commentaire. Je crois qu'à long terme, cela pourrait avoir un impact négatif lorsque les choses reviendront à la normale, éventuellement. Je crois que nous pourrions rester au banc des pénalités un peu plus longtemps que nous le devrions. Et puis les gens, en général, ont de la mémoire, ce qui fait que quand la situation s'inversera, ben on verra ce que ça fait éventuellement d'être de l'autre côté de la barrière.
Oui, parce qu'il faut dire ici, dans le cas particulier de la Russie, qu'il y a des objectifs de politique interne canadienne, hein, juste c'est-à-dire l'importante communauté ukrainienne de l'Ouest, très sensibilisée par le sort actuel de l'Ukraine, est très favorable à la rhétorique agressive du premier ministre. Ça l'encourage et ça lui permet d'aller chercher des votes, et donc peut-être qu'il en fait plus que ce que le client en mérite.
Éclairage qu'on oublie un peu et qui a une grande importance dans l'analyse, effectivement, vous avez raison. Alors aujourd'hui, les problèmes en Russie vont bien au-delà des sanctions internationales. La devise du pays, hein, il faut quand même le signaler aussi, le rouble, a perdu énormément de sa valeur et le plongeon du cours du pétrole a plongé le pays dans une crise. Les problèmes de la Russie affectent maintenant des secteurs au Canada qui n'ont pas été visés par l'embargo du Kremlin. C'est ça le problème. Voilà, mais écoutez, c'est pas très très gai et moi je trouve qu'on prend pas les bonnes mesures pour s'en sortir. Je suis très inquiet de cette situation, il me semble qu'elle va s'aggraver et ça, vraiment, ça ne profite à absolument personne.
Quelques instants finalement pour vous faire état de nouvelles. Bref, je vais d'abord vous parler de la Suisse. La Suisse qui a une nouvelle exportation à proposer à ses voisines. La Suisse entend exporter ses prisonniers. Effectivement, il n'y a plus de place dans les prisons suisses. Alors, on s'enquiert de ce que les prisons françaises, allemandes ou italiennes pourraient offrir comme service aux prisonniers suisses. Ouais, mais... Si c'est pas beau.
Bon projet de vacances. On a beaucoup parlé de l'accroissement des inégalités dans nos dernières émissions. Ça vous a sans doute pas échappé, mais les 100 présidents directeurs généraux les mieux rémunérés au Canada se sont largement servis, hein, puisque augmentation de 25% de plus que ce qu'ils avaient gagné en 2008, c'est absolument énorme.
Et c'est le double de ce que leurs employés ont eu.
Exactement, c'est plus du double.
On fait une courte pause et on se retrouve dans quelques instants.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Ah, nous voilà de retour pour la deuxième partie de cette émission. Je commence tout de suite en vous parlant de votre voisin de bureau, cet être qui, dans le cubicule d'à côté, voue une vénération particulière à, je ne sais pas moi, manger des graines de soya, protéger les phoques ou qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Verser de l'encre sur les manteaux de fourrure dans la rue, tiens. Bref, les gens qui militent, qui ont des idées et qui ne peuvent pas les laisser à la maison quand ils vont travailler. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut ne pas faire en milieu de travail quand on veut militer? Marie Lambert-Chan de La Presse s'est penchée sur la question l'année dernière. Ça fait bizarre de le dire, mais c'était le 31 décembre. Dans un texte qui s'intitulait j'ai perdu le titre. « Militer au travail, un exercice délicat ». Les employés qui veulent faire connaître leur engagement au travail doivent trouver le juste équilibre entre leur liberté d'expression et leur obligation de loyauté envers l'employeur. Karine Gentelet, 45 ans, est chercheuse au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal. Elle préside aussi le conseil d'administration de la section francophone d'Amnesty International. deux identités qu'elle arrive à concilier au travail. Mes devis ne sont pas si imperméables, car j'étudie les droits autochtones dans mon travail et que je les défends au nom d'Amnesty International, observe-t-elle. Pour éviter d'être en conflit d'intérêts, je tiens toujours mon patron au courant. Par exemple, je ne vais pas transmettre de l'information à propos d'Amnesty à mes collègues sans son aval. C'est une question de transparence et d'honnêteté. Pour quiconque souhaite discuter de son activisme autour de la machine à café, l'exemple de Karine Gentelet est à suivre. Ça prend l'approbation de l'employeur parce que cela pourrait perturber le milieu de travail, confirme Mélanie Morin, avocate associée chez Gowling Lafleur Anderson et conseillère en ressources humaines agréées. Bien sûr, les travailleurs peuvent parler de leurs convictions au bureau. Et il en va de la liberté d'expression, protégée par la Charte des droits et libertés, aussi bien québécoise que canadienne. Mais ils doivent le faire tout en s'acquittant de l'obligation de loyauté envers l'employeur, un devoir inscrit dans le Code civil du Québec. C'est une forme de retenue envers son employeur, explique Maître Morin. On doit faire preuve de respect et d'honnêteté, être de bonne foi et agir de manière diligente. Cette obligation s'applique en tout temps et en tout lieu, même sur le web. Il faut faire attention aux médias sociaux, insiste l'avocate. Il arrive que des individus y communiquent leurs opinions en les signant avec leur titre et le nom de leur organisation. Ça ne se fait pas, à moins que la personne s'exprime dans le cadre de ses fonctions et que ce soit entendu avec son employeur. J'ajoute à titre personnel que j'ai déjà perdu un patron à cause de ça. Mélanie Morin conseille aux employés militants de définir avec leur patron les limites de ce qui peut être dit ou fait au travail au nom de leur cause. L'employeur a un droit de gérance par rapport à cela, rappelle-t-elle. Paul, dirigeant d'une PME en banlieue de Montréal, s'est prévalu de ce droit il y a quelques années quand une employée s'est engagée avec passion dans la défense des animaux. Au début, c'était plutôt inoffensif, raconte l'entrepreneur qui préfère taire son identité. Elle ajoutait des pensées au bas de ses courriels et épinglait des affichettes dans son cubicule. Mais j'ai dû mettre le holà à tout ça quand elle a commencé à critiquer des collègues parce que leur lunch contenait de la viande et qu'elle leur faisait suivre systématiquement des messages sur la cruauté faite aux animaux. Ça empoisonnait l'ambiance au bureau. Karine Gentelet n'a jamais cherché à pousser l'expérience aussi loin. « Je n'ai pas submergé le centre de recherche d'une vague jaune et noire, ce sont les couleurs d'Amnesty International », lance-t-elle en riant. « Pour moi, il est hors de question que je sollicite des dons auprès de mes collègues, que je distribue des tracts ou que je porte un écusson. Parfois, avec l'autorisation de son patron, elle informe ses collègues d'événements organisés par Amnesty, mais elle les choisit avec soin et n'en fait pas une habitude. « Au boulot, je suis payée pour être chercheuse, pas militante », signale Karine Gentelet. « Je porte deux chapeaux distincts. » N'empêche, mes rôles se superposent à l'occasion. Par exemple, quand j'assiste à une conférence ou je croise des collègues et des gens d'Amnesty, je leur précise alors quelle organisation m'envoie pour ne pas entretenir de flou. La chercheuse admet que militer au travail exige une certaine réceptivité des collègues et du patron. « Si je n'avais pas été dans un milieu sensible à la défense des droits, je n'en aurais peut-être pas parlé », dit-elle. Je pense qu'on a tous dans nos souvenirs la mémoire d'un de ses collègues qui n'avait pas compris qu'on n'avait pas le choix d'être assis à côté de lui et que finalement, on n'avait peut-être pas envie d'être converti à je ne sais pas quel mouvement. Idoles de ma jeunesse étaient politiques ou alors parlaient à la télévision. Nos idoles maintenant sont des gestionnaires à viser des hommes en cravate qui vont changer le monde.
Oui, alors est-ce qu'il existe un homme parfait dans nos sociétés marchandes?
Ma mère pensait que oui.
Oui, et ben, elle a toujours... Oh, écoutez, arrêtez de vous dévaloriser, François. Vraiment, personne ne peut vous croire. Bon, alors, est-ce que comme vous, c'est un savant mélange de force intérieure et de capacité à conduire les autres, tout en portant un projet d'entreprise, hein? Vous vous reconnaissez bien dans ce portrait. Mm-hmm. Bon, eh bien, il y a quelqu'un qui peut peut-être vous faire de la concurrence, qui s'appelle Fabrice Grindat. Et est-ce que c'est un modèle? Eh bien, c'est une question qui a intéressé Sébastien Lay, qui est journaliste à la Tribune. Il faut échouer pour réussir. C'est le premier conseil de Fabrice Grinda. Je trouve que ça commence très mal. Bon, voyons voir comment ça continue. Entrepreneur et business angel. Alors, on rappelle que les business angels, ce sont des gens qui dorment sur des tas d'or et que vous pouvez aller voir en leur disant « j'ai l'idée du siècle ».
Ce qu'on appelle ici des mentors d'entreprise en bon français, voilà. Mais en France, évidemment, ça s'appelle des business angels parce que je rappelle que la tribune dont il est ici question n'est pas le journal de Sherbrooke.
Oui. Bon. Tester des idées, les confronter à la réalité, expérimenter, c'est pour lui la clé du succès de l'entrepreneur. Son aventure commence vraiment avec la fondation en France à la fin des années 1990 du site d'enchères Auckland. Il y a 30 ans, Fabrice Grinda aurait fait de la politique pour changer le monde et sans nul doute y a-t-il songé lors de ses études d'économie à Princeton. C'est l'univers des startups qui lui aura finalement permis de poursuivre son idéal d'homme de la Renaissance, à la fois entrepreneur, investisseur, esthète aussi dans les conseils de vie. Moi, je trouve que cette expression homme de la Renaissance, qui est un anglicisme, hein, puisque ça se pratique surtout en anglais, c'est une insulte terrible faite à certains hommes de la Renaissance. Je ne sais pas si Pic de la Mirandole se retrouverait dans ce portrait. Bon, enfin, on va voir. Mm-hmm. Allez, avançons. Donc, à la fois entrepreneur, investisseur, esthète aussi dans les conseils de vie qu'il distille dans son blog et dans ses nombreuses interactions avec des entrepreneurs. Saint-Exupéry disait « Les échecs fortifient les forts ». Oui, et Nietzsche, je fais une parenthèse, disait « Il faut protéger les forts contre les faibles ». Phrase un peu provocatrice, mais très intéressante.
Et je rappelle que Saint-Exupéry a échoué un atterrissage un jour. On a retrouvé son avion dans la Méditerranée.
Oui, mais c'est parce qu'il ne connaissait pas Fabrice Grinda. Alors, les premières lignes du CV de Fabrice Grinda pourraient nous faire croire de prime abord à un profil très lisse en comparaison avec le mythe de l'entrepreneur high-tech, rebelle et autodidacte. Et pourtant, il est de ceux qui n'ont cessé de pousser leur rocher de Sisyphe, animé d'une foi inébranlable en la technologie, jusqu'au succès qui n'est d'ailleurs jamais final et définitif, comme l'échec dans sa philosophie de vie. Moi, j'aurais tendance à dire que l'échec, quand il arrive, il a un côté définitif quand même qui est assez facile à s'installer. Bon, enfin bref. La fondation du site d'enchères Auckland à la fin des années 90. Il faut échouer pour réussir. Et le premier conseil de Fabrice Grinda, tester des idées, les confronter à la réalité, expérimenter pour lui la clé du succès de l'entrepreneur. Très bien. Alors, il nous le dit deux fois. Mais où est-ce que ça mène? Après 2 ans de tâtonnement pour ce modèle B2C, légèrement en avance aux États-Unis, 4 mois de salaire non payé aux employés, comment dire, et un jeune entrepreneur qui apprend à survivre tant bien que mal dans la jungle new-yorkaise, le bateau ivre et tanguant finit par se stabiliser et par prendre son envol. Un bateau qui prend son envol, je ne sais pas si l'image aurait intéressé Rimbaud, mais on peut se poser la question. Avant d'être absorbé par un groupe japonais, Fabrice Grinda obtient son indépendance avec la vente pour 80 millions de dollars de Zingy.
Est-ce que ses employés ont été payés dans l'intervalle?
Mais on peut se poser la question. Hein. Commence alors pour lui une vie effrénée de business angel, pardon pour cette redite, avec son compère José Marin. 150 investissements actifs à ce jour, dont 40 nouveaux en 2014, et une philosophie d'investissement. Est-ce que ce n'est pas un oxymore, là, une philosophie d'investissement, hein, on peut se poser la question. Forgée, elle aussi, par tâtonnement et largement partagée sur son blog. 2 jours, Fabrice Grinda demeure un entrepreneur et s'attaque aux places de marché et sites de petites annonces avec la création d'OLX. Une fois n'est pas coutume, ce site, qui ne décollera jamais vraiment aux États-Unis, deviendra un immense succès dans nombre de pays émergents avec 1200 employés. Et alors, l'histoire ne dit pas si on les paye. Par itérations successives, Fabrice Grinda aura construit un groupe dont la valorisation lors de ses sorties avoisinait plusieurs centaines de millions de dollars et qui aujourd'hui, sous l'égide du sud-africain Naspers, vaut probablement des milliards. Si dans ses investissements d'ange, merci pour ce retour au français, Grinda s'est essayé à de multiples secteurs, en tant qu'entrepreneur, les places de marché demeurent sa spécialité. La dernière tendance des places de marché verticales, il a ainsi récemment lancé une plateforme pour la vente de voitures d'occasion, BP, qui vient de lever 60 millions de dollars, et une autre pour la vente d'œuvres d'art, Lofty. Ça veut dire qu'on les met dans un loft, c'est ça? Oui, d'accord. Ces startups embrassent la dernière tendance des places de marché verticales complètement intégrées. Elles gèrent l'intégralité de la transaction, du paiement, de la vérification des biens, quand bien même pour toutes ces tâches, elles font appel à des prestataires extérieurs. Mais pour le consommateur final, en quelques clics, on peut vendre sa voiture ou acheter une œuvre d'art, les frictions que l'on rencontre traditionnellement sur ces marchés. Confiance, vérification, authenticité, paiement étant prise en charge par la plateforme. Ça m'ennuie de mettre les œuvres d'art à la place des, à côté des voitures. Je suis tombé sur une phrase de Liosa, l'écrivain péruvien, l'autre jour, assez jolie. Je peux pas résister à l'occasion, au fait de vous la citer. La vie est une volée de merde. L'art est notre seul parapluie.
Oui.
Donc, ça serait bien de le, voyez, de pas le mettre à côté des voitures. Enfin, moi, j'aimerais bien. Fabrice Grinda a choisi de faire de New York son lieu de résidence principale, car au-delà de la présence grandissante de l'industrie de la high-tech, surpassée uniquement par la Silicon Valley, l'attrait culturel et artistique de la ville est indispensable à son équilibre. Et force est de constater que la notion de localisation n'a plus grand sens pour les startups. Alors, au regard de ses réussites pour le moins exceptionnelles, alors attendez, parce que là, il faut quand même prendre sa respiration pour écouter la suite. Fabrice Grinda garde une humilité assez socratique en faisant valoir la nécessité pour l'individu d'examiner régulièrement sa propre vie en une autoréflexion rigoureuse. Je suis désolé, mais l'humilité, ce n'est pas un concept socratique. Hein. On pourrait revenir là-dessus, ce n'est pas du tout la bonne approche. Alors, je continue en une autoréflexion rigoureuse afin de mieux la remettre constamment en cause. La quarantaine est ainsi l'opportunité pour Fabrice Grinda d'accorder désormais plus de temps à ses amis et de se débarrasser de la propriété de ses biens matériels. Se débarrasser de la...
Oui.
Une nouvelle organisation de vie qui devrait, n'en doutons pas, donner naissance à une floraison de nouvelles start-up et d'investissements. C'est un peu fumeux tout ça. Mm-hmm. Moi, je suis très gêné par cette mise à contribution de philosophe. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est une traduction moderne du Gnotiséoton, connais-toi toi-même, dont n'oublions jamais que la suite est tu connaîtras les hommes et les dieux. Peut-être que cette deuxième partie a été négligée.
Moi, j'aime bien ces millionnaires qui prônent le dépouillement. Je trouve ça toujours très drôle.
I can walk into
Hunting the Morning, chanté par un groupe anglophone dont je ne répéterai pas le nom, puisqu'il m'a été donné par Rémi Hermoso, qui assume les choix musicaux de cette émission. Il me l'a donné avec un accent français. Et j'ai peur de vous le répéter parce que je me dis non. Franchement, je risque trop de passer à côté. Voilà. Parlant de passer à côté, il y a un pays à côté duquel on est passé depuis très, très longtemps maintenant, depuis que nos soldats l'ont quitté, en fait, l'Afghanistan, ce qui est quand même le plus long conflit à l'étranger de l'histoire du Canada. On l'oublie souvent. L'engagement des soldats canadiens en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est aussi une économie. On va voir où elle en est après justement ces années de guerre qui ne sont d'ailleurs pas terminées. Quels sont les espoirs et les désespoirs de cette économie, puisque Guillaume Lavallée de l'agence France-Presse s'est penché sur le sujet et son texte a été publié dans Le Devoir du 3 janvier 2015. Une bombe à retardement, l'économie. Et si la principale menace pour l'Afghanistan n'était pas les talibans, mais la faiblesse de l'économie? En dépit de succès incontestables et de l'aide internationale, l'économie afghane est en panne et les énormes ressources minières n'offrent aucune solution à court terme. Dans le bazar de Sarayi Shahzada à Kaboul, les changeurs manipulent d'épaisses liasses d'afghanis, dollars, roupies et dirhams, mais les clients ne se bousculent plus. Les affaires ne sont plus ce qu'elles étaient il y a encore 2 ans, dit-on devant le thé fumant. Après une décennie de croissance frôlant les 2 chiffres, l'économie afghane s'est contractée depuis 2013 avec les craintes liées à la présidentielle qui a finalement porté au pouvoir Ashraf Ghani et au retrait de l'essentiel des forces de l'OTAN cette semaine. Ce repli de l'activité n'a pas échappé aux changeurs spécialisés dans le Hawala, un système informel de transfert de fonds qui sert aussi de baromètre de la confiance des investisseurs. À l'approche du retrait, les investisseurs ont déplacé leur argent à l'étranger. Ils ont transféré à Dubaï, en Chine, au Pakistan, en Inde, en Turquie, note Omiad Khan, installé dans l'entreprise familiale du bazar de Sarayi Shahzada. Un sondage récent de l'Asia Foundation, une ONG américaine auprès de 9200 Afghans, place le chômage et une faible économie en tête des problèmes du pays, devant l'insécurité et la corruption. Il faut quand même le faire. Je vous rappelle qu'on est en Afghanistan. Tout ce qui passe devant l'insécurité et la corruption est donc un grave problème. Depuis 2002, les États-Unis ont investi plus de 104 milliards de dollars en Afghanistan, pays de 30 millions d'habitants, dépassant ainsi le plan Marshall pour reconstruire l'Europe après la Seconde Guerre, selon l'inspecteur général pour la reconstruction en Afghanistan. Mais cette somme a surtout financé des opérations de combat et les forces de sécurité afghanes, aujourd'hui seules à défendre le pays après le retrait de l'OTAN. Le gouvernement afghan table cette année sur des recettes de 1,8 milliard de dollars, une somme inférieure à la valeur de l'héroïne tirée des champs d'opium qui alimentent les caisses des talibans et autres chefs de guerre. Et sans les 8 milliards d'aide internationale annuelle, le gouvernement est incapable de payer le salaire de ses 350 000 soldats et policiers. Pourtant, la croissance a été au rendez-vous de la décennie de l'OTAN. Le produit intérieur brut est passé de 2,5 milliards de dollars en 2001 à plus de 20 milliards de dollars, selon la Banque mondiale, dopé par le transport, la construction, les télécoms et les médias. L'agriculture hors opium a aussi profité de cette décennie au point que les fruits secs ont dépassé les tapis au palmarès des exportations. Avant, nous n'exportions que dans 2 pays, l'Inde et le Pakistan, mais maintenant nous exportons vers environ 45 pays, se félicite Haider Refat à la tête d'une société qui exporte raisins, figues, pistaches et autres délicatesses locales. En vendant dans le Golfe, en Australie et au Canada, les producteurs afghans touchent des devises et favorisent la création d'emplois sur un marché où 400 000 nouveaux jeunes font leur entrée à chaque année. Mais pour doper ses exportations, le pays doit régler ses problèmes énergétiques et faire connaître les produits d'Afghanistan à l'étranger, plaide Haider, dont l'entreprise familiale donne sur les vieux bazars du centre-ville. Autre secteur à fort potentiel, les mines, avec, selon les services géologiques américains, des gisements, fer, or, cuivre, d'une valeur estimée entre 1 000 et 3 000 milliards de dollars. Si cette manne peut permettre d'envisager un futur prospère, il y a encore loin de la coupe aux lèvres, estime Javed Nourami, expert du secteur minier afghan. Kaboul doit encore réformer sa loi sur les mines, rendre plus transparente l'octroi des concessions, étendre son réseau ferroviaire pour transporter le minerai, juguler la corruption dans l'exploitation des mines déjà en production et transformer sur place la ressource pour créer de l'emploi. Une tâche colossale qui prendra au moins une décennie, note M. Nourani. D'ici là, l'Afghanistan aura besoin d'aide, de stabilité et d'opportunités pour ses jeunes, dont plus du tiers vivent sous le seuil local de pauvreté et risquent d'être poussés dans les bras de l'insurrection en cas de récession prolongée. Dans le bazar des changeurs, le vieil Haji Mou bin Hamad n'a, lui, aucun doute. Notre économie dépend encore de l'aide internationale. Couper l'aide, c'est comme couper l'oxygène. Nous mourrons. Une belle manière ici de dire que ce ne sont pas les soldats qui finalement gagnent. Les soldats gagnent les guerres, pardon. Les paix, elles, sont remportées par des travailleurs qui peuvent travailler.
Ah, quelques brefs pour terminer. Je vais encore passer pour un affreux sexiste misogyne, mais j'ai pas résisté.
Dis ceci préventivement, voilà.
Oui, voilà, c'est fait. Vous savez que le principe de l'acheteuse compulsive de chaussures est simple, hein, toujours en acheter plus, même si elles sont inutiles. Eh bien, pour 57% des femmes, quand on aime, on ne compte pas, et en moyenne, elles possèdent 14 paires de chaussures, et un tiers avoue en avoir une jamais portée. Et en plus de ça, les accros aux chaussures qui sont sur le pied de guerre, pour optimiser leurs achats, eh bien, 46% ont pris carrément un jour de congé pour assouvir leur dépendance.
Oui, quand on sait qu'à chaque chaussure correspond un sac à main, eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Les immenses réserves pétrolifères canadiennes de charbon américaines et chinoises devraient rester sous terre. C'est du moins les conclusions d'une étude qui vient dire que si on veut réussir effectivement à juguler l'effet de serre, il faut renoncer à exploiter ce qu'on considère comme des richesses dans les principaux pays qui les exploitent. Alors, c'est pas fait. Voilà, c'est le vœu pieux de la semaine.
À propos de la vie sous terre, un petit mot sur Mark Zuckerberg. Figurez-vous que pour 2015, il a pris une résolution, lire un livre tous les 15 jours. D'abord, ça suppose qu'il sait que les livres existent, ce qui est déjà bien. Et puis le partager. Donc il a annoncé sur le samedi 3 janvier sur sa page la création de son propre club de lecture. Eh bien, évidemment, dès qu'il a mis un livre, il est devenu numéro 1 sur Amazon. C'est quoi le livre ? The End of Power, du vénézuélien Moises Naim. Eh bien, cet essai, selon Zuckerberg, selon lui, explique comment les individus sont en train de s'emparer du pouvoir, jusque-là dévolu aux gouvernements, armées et autres organisations. C'est pas du populisme, ça?
Ah, oui, bon, enfin. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé de la Grèce à cette émission, mais c'est difficile de ne pas le faire cette semaine, puisqu'il y a des élections en Grèce. Je vous rappelle que le gouvernement actuel, qui est un gouvernement de droite, est largement passé par le biais des compressions et de l'austérité à la grande satisfaction de l'Allemagne, donc qui a refinancé une partie de la dette grecque. Et ce gouvernement-là est mis en péril par la gauche qui domine. Alors, la gauche est présentée dans le reste de l'Europe comme une gauche radicale. Et si elle devait venir au pouvoir, il semblerait que les Allemands étudient déjà des scénarios qui feraient en sorte qu'on retirerait la Grèce de la zone euro. Du moins, c'est la campagne de peur qu'on sème en Allemagne pour inciter les Grecs à voter du bon côté et du côté où, finalement, ils continueraient à souffrir.
Oui, et rappelons que la peur, c'est quand l'angoisse s'empare du langage, ce qui n'est pas une bonne chose puisque c'est une façon de faire du rationnel avec de l'irrationnel. Ça ne mène à rien. Le Japon, eh bien, figurez-vous que le prix du thon rouge chute. C'est la première fois, ça c'est une nouvelle spectaculaire. Un thon rouge de 180 kilos n'a pas dépassé une enchère de 40 000 $. C'est quand même assez cher. Et ça a surpris tout le monde, puisqu'habituellement, on débourse des sommes astronomiques pour mettre la main sur ces spécimens de premier choix.
Oui, le thon rouge est un gros poisson, mais 40 000 $ pour un poisson, quand même, il faut vouloir. Les cadres, il y a une nouvelle mode dans l'embauche des cadres qui fait qu'on les embauche maintenant pour leur implication sur les réseaux sociaux. On leur demande des curriculum vitae où on ne parle pas de leurs expériences passées ou de leur formation académique. Non, non. Ce sont des recensions de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux sur telle ou telle personne. On va les chercher et avis aux principaux intéressés. Facebook, ici, est un réseau social qui n'est pas du tout considéré dans cette liste-là. On parle des LinkedIn, des réseaux spécialisés. Il y a des firmes et des agrégateurs qui font des recherches sur des gens pour sélectionner des cadres comme ça.
2015 a vu le début du salon d'électronique grand public qui a ouvert cette semaine à Las Vegas. Alors, il y a eu des objets assez farfelus. Je vous en cite quelques-uns parce que ça mérite quand même d'être cité. Le biberon connecté, hein, c'est bien. Hein, on peut... Jean-Sébastien, pour sa petite fille, je pense que ça serait une très, très bonne chose. Bon, voilà. La montre intelligente ou l'imprimante 3D alimentaire. Et puis surtout, parce que ça, évidemment, ça va faire quelqu'un de très riche si jamais ça marche, un casque pour faire repousser pousser les cheveux.
Mm-hmm. Et j'ajoute à ça une autre nouveauté qui est parue aussi à Las Vegas. La laveuse, la machine à laver le linge, a finalement deux baquets qui permettent donc de faire un petit brassard en dessous ou un gros brassard au-dessus. Pratique quand on ne lave pas ses couleurs ensemble, mais ceci dit, la sécheuse à deux tambours n'existe pas. Alors, avis aux intéressés. Ceci dit, je vous parle de l'université de Pikeville au Kentucky. On connaît la tradition des universités américaines qui est effectivement de donner des bourses aux sportifs pour les inciter à fréquenter leurs institutions et à financer ainsi leurs études. Eh bien, l'université de Pikeville a étendu ce programme aux joueurs de jeux vidéo. Elle veut créer une bonne équipe de joueurs de jeux vidéo universitaires. Avis aux principaux intéressés. Ce qui m'inquiète là-dedans, c'est que c'est la deuxième université qui fait ça aux États-Unis.
Et pour rester dans l'électronique, une nouvelle carte d'affaires, un disque dur grand comme une carte d'affaires. James Bond aurait adoré, c'est Samsung qui l'a fait.
Voilà, nous vous avons présenté cette toute première édition de Kiosque Magazine Économie et Emploi en 2015. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine et on remercie Rémi Hermoso qui a assuré la mise en onde de cette émission. Au revoir.